C'est le 27e épisode de Litter Amour avec Sigrid Brinkmann et mon invitée, la traductrice et l'écrivaine Nicolas Denis. Bonjour.
Bonjour Sigrid.
Vous vivez en France depuis bien des années et depuis 2002, vous traduisez de la littérature française en allemand. Vous avez été professeur invité à Bâle, Mannheim et Göttingen et mentor pour de futurs traducteurs ou traductrices littéraire. Vous avez été récompensé par le prix Lémanique Suisse et tout dernièrement, le prix Eugen Helmle vous a été décerné pour votre œuvre de traductrice. Et cette œuvre est d'une richesse absolument impressionnante. Nous parlerons de votre activité de traductrice, mais je voudrais commencer notre entretien par un regard sur vos débuts en tant que narratrice. En 2022, vous avez publié en Allemagne, chez Klett Cotter, une très grande maison d'édition, le livre Die Tanten, les tantes. Ce livre est basé sur les souvenirs des quatre sœurs aînées de votre père qui sont toutes restées célibataires. C'est une sorte d'album de famille dans lequel s'insèrent des passages de réflexion sur la langue et des considérations sur l'histoire contemporaine. Comment, Nicolas Denis, l'idée de regarder de près la vie de ces célibataires sans enfants a-t-elle pris forme?
Oui, donc c'est une idée que je porte depuis assez longtemps en moi, effectivement. Et je ne me sentais pas légitime de m'en approcher parce que je n'étais pas encore, on va dire, autrice ou écrivaine à l'époque. Donc je dirais que ça fait 15 ans quand même que j'ai l'idée en tête. Et voilà, donc je me demandais si j'allais prendre un angle de vue sociologique, historique, si j'allais chercher quelqu'un pour l'écrire avec moi. Et bon, tout est resté en plan, mais j'avais fait toutes les recherches nécessaires, interrogé mon cousin qui était en fait le seul survivant en quelque sorte de la famille. Et donc accumuler le matériel est tout prêt. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même un déclic avec le Covid, comme pour d'autres. Avec l'été qui suivait le début de l'épidémie, je me suis dit, il faut en faire quelque chose. Et grâce à la traduction, j'avais l'impression, au fait de traduire, j'avais l'impression d'avoir vraiment une caisse d'outils suffisamment remplie, littéraire, j'entends, oui, pour prendre le sujet à bras le corps.
Est-ce que la distance géographique et linguistique aussi a-t-elle facilité la réflexion sur la dynamique familiale de ces quatre tantes et la conception aussi des rôles des quatre femmes?
Oui, et la distance chronologique aussi, bien sûr, parce qu'il faut dire qu'elles sont mortes toutes les quatre maintenant, parce que ça aurait été difficile sinon de s'accaparer leur vie en quelque sorte. Oui, alors c'est quelque chose qui dit dans le livre au début. C'est effectivement en arrivant en France, il y a bien longtemps maintenant, 27 ans, que j'ai réalisé que ce n'était pas quelque chose d'évident, de naturel, de vivre seule en tant que femme, parce qu'on m'a présenté une jeune femme, je me souviens très bien, qui avait son métier et tout, mais on me disait c'est une célibataire. Malheureusement, elle s'est pas mariée. Elle avait même pas 30 ans à l'époque, donc je me suis dit bon, ça a l'air d'être une particularité ici que, en tant que femme, on ne peut pas vivre seule sans que ce soit commenté. Et voilà, donc ça c'est un peu le début du livre. Je me suis interrogée aussi sur les mots qu'on trouvait dans les différentes langues, dans le français et l'allemand, pour désigner les femmes célibataires. Donc célibataires, bien sûr, en français, non mariées. Mais bon, ça veut dire que la norme serait quand même que ces femmes sont mariées, seules et seules, isolées. Et tout récemment, une jeune collègue m'a dit qui vit à Bruxelles qu'elle a dû remplir un formulaire où c'était marqué effectivement « isolée » pour une femme qui vit seule. Alors qu'en allemand, on a des mots beaucoup plus, beaucoup plus jolis, beaucoup plus valorisants pour dire une femme qui vit seule. Par exemple, le mot « alleinstehend » qui veut dire « tenir debout tout seul ».
Est-ce que le travail de langue permet de voir plus clair les différences sociales et mentales telles que vous les décrivez maintenant? Les différences qu'il y avait concernant le statut des femmes en France et en Allemagne.
Oui, effectivement, je crois que je me suis approchée de ces différences par la langue. Une autre différence aussi, c'est que, par exemple, en Allemagne, ça s'est dit au début du livre aussi, le mot Fräulein, donc l'équivalent de mademoiselle, a été éradiqué, je pense, assez sérieusement dans les années 70. Et en France, je n'ai plus l'année en tête, mais je crois que c'était au début des années 2000, donc très tardivement. Et c'est uniquement une recommandation, je crois, qui a été prononcée pour qu'on ne dise plus mademoiselle. Bon, et on sait tous et toutes en France que c'est quand même encore un mot qui est utilisé notamment par certains vieux monsieur. Voilà, donc la langue dit beaucoup de choses, la langue dit beaucoup de choses aussi sur les différences culturelles et oui, sociales.
Les quatre tantes, elles sont résolues, vigoureuses, indépendantes, obstinées aussi. Moi, j'étais vraiment captivée par leur énergie et aussi leur conscience de soi. Peu à peu, vous découvrez et dévoilez des facettes un peu autoritaires aussi. Les tantes n'étaient pas féministes, non ?
Les tantes n'étaient pas féministes, non ? Elles auraient même ri ou utilisé ce mot avec une certaine condescendance. Oui, ni émancipée, même ça, je crois que, je crois me souvenir qu'elle le disait avec un peu de mépris, un peu d'ironie. Voilà. Oui, donc, elles avaient effectivement un caractère très, elles étaient très moralistes, hein, moralisatrices aussi, à la façon, autoritaires, vis-à-vis de moi, oui, quand j'étais petite, vis-à-vis de ma mère aussi, ça c'est aussi un motif qui revient régulièrement dans le livre. Ma mère qui, elle, n'avait pas de métier, qui était une bonne épouse des années 50 et qui était censée rester une bonne épouse des années 50 pour les sœurs de mon père, parce qu'il s'agissait de bien s'occuper de mon père. Et en même temps, elle faisait comprendre à ma mère que quand même, elle était que épouse et femme au foyer. Donc, c'était pas très confortable comme statut pour ma mère, qui a même proposé, c'était un petit passage dans le livre aussi, de quand elle allait à Stuttgart, là où vivaient les tantes, de les aider à... pour tenir en fait la cuisine, pour faire la cuisine et pour animer un peu le foyer. Voilà, donc ça m'a surpris. Donc elle s'est quand même un peu proposée en tant que domestique, entre guillemets, de ses belles-sœurs.
Qu'est-ce qu'elles ont fait dans la vie, les quatre tantes ?
L'aînée était psychiatre. Elle a fait des études dans les années 20, entre autres à Vienne. Bon, donc médecin, psychiatre. Donc elle a eu une carrière assez impressionnante aussi pendant les années 30, par exemple. Elle était excessivement souple, très mobile. Elle était dans plusieurs villes d'Allemagne pour faire des remplacements avant d'avoir un poste à grande responsabilité à l'hôpital de Stuttgart qu'elle a dû quitter quand son prédécesseur qui avait été à la guerre est revenu. Donc elle a touché aussi un peu à cette zone grise importante pendant la guerre par rapport au meurtre des malades mentaux. Donc ça c'est aussi un sujet dans le livre, ou en tout cas un sujet qui est effleuré. La seconde, elle n'a pas pu faire d'études parce que bon, il n'y avait plus assez de moyens. Donc elle était assistante médicale, on peut dire. Elle a travaillé dans un laboratoire et elle vivait avec sa sœur aînée. Donc les deux vivaient ensemble et la troisième avait eu une maladie grave enfant et donc elle avait des séquelles cognitives. Donc elle a fait un travail très simple, blanchisseuse, on dirait peut-être aujourd'hui, on aurait dit à l'époque plutôt. Bref, elle était aussi indépendante quand même financièrement, donc elle a pu travailler. Et la plus jeune était pharmacienne, avec sa propre pharmacie. Et donc les trois, en tout cas, hormis celle qui avait un destin un peu plus simple et qui vivait ailleurs, les trois ont passé leur dimanche ensemble, ont fait des sorties ensemble, des voyages ensemble, nous étaient très liés.
Les tantes, les quatre femmes, enfin, vu leur indépendance, étaient vraiment en avance du temps. D'autre part, elles incarnaient aussi une certaine étroitesse d'esprit, typique pour les années d'après-guerre. Vous dites qu'elles étaient pactisantes, secrètes. C'était quoi leur complicité ?
Oui, leur complicité était aussi un peu ambivalente parce qu'elles étaient à la fois ensemble, mais elles n'étaient pas, c'était pas une complicité intime, c'est-à-dire on sentait très bien qu'elles se confiaient pas entre elles. Oui, ça c'est un sujet dans le livre aussi, qu'une des tantes, on l'apprend au fur et à mesure du livre, qu'une des tantes était assez dépressive sans doute, et c'est celle qui vivait avec le médecin psychiatre. Donc, je pense qu'il n'y a eu aucune perméabilité entre elles deux à ce sujet-là. Donc, c'était, oui, c'était un pacte. Peut-être que j'utilise ce mot, effectivement, par rapport à la guerre, qui était aux événements historiques qui étaient derrière elles, et qui les liait dans un silence aussi sur ces années, parce qu'effectivement, moi, en tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Un pacte aussi par rapport aux hommes, sans doute. C'est aussi un sujet qui est effleuré, parce que elles ont quand même exprimé une certaine peur des hommes. Et quand il y en a quatre dans la même fratrie qui disent avoir peur des hommes, qui ne se sont jamais mariés, bon, on pose aujourd'hui en tout cas des questions qu'on n'a pas posées à l'époque et que j'essaie d'effleurer sans accuser quelqu'un ou sans être dans les spéculations qui vont trop loin. Mais voilà, on sentait un peu cette, en allemand on dit Schulterschluss, c'est-à-dire, oui, effectivement cette idée de pacte contre le monde extérieur un peu, oui.
Die Tanten, c'est un livre formidable, je trouve, un tableau complexe, très complexe, d'une famille et d'une époque, écrite avec beaucoup de finesse et d'esprit. Vous venez souvent en Allemagne parce que vous êtes invité à des lectures pour présenter ce livre, et vous venez aussi pour présenter des livres que vous traduisez, des auteurs que vous représentez. Est-ce que cela, cette sorte d'échange aussi qui se passe quand vous venez en Allemagne, est bien nécessaire aussi pour rester en contact avec la vie publique de ce pays ?
Oui, ça, c'est vrai que c'est très important pour moi. J'aime énormément le contact avec le public. C'est aussi quelque chose que je découvre par rapport à la propre écriture. Oui, la vie publique, les débats aussi auxquels je participe, parce que là, on est aussi dans des discours, oui, féministes. On touche à des sujets quand même actuels, sans que ce soit au premier plan. Oui, bien sûr, et même pour en ce qui concerne aussi peut-être d'autres projets d'écriture, c'est très important de me confronter aux débats qui sont encore un peu plus virulents, on va dire, les débats sur tout ce qui est langue discriminante, genre dans la langue, et c'est un débat qui est virulent et en même temps très, très inspirant en Allemagne et un peu plus qu'en France, où il y a un peu plus de conservatisme par rapport à tout ça, donc c'est tout à fait inspirant et important pour moi aussi de baigner un peu là-dedans.
Votre vie, Nicolas Denis, se joue en France, surtout. Vous êtes mère de quatre enfants. Est-ce qu'ils sont tous bilingues ?
Alors, effectivement, le premier, il est parfaitement, parce qu'il a aussi fait un abi-bac, donc un bac franco-allemand. Après, c'est un peu dégressif, mais ça, c'est parfaitement de ma faute. Voilà, donc je pense que effectivement la transmission pure qu'on a avec le premier enfant, parce qu'on est seul à lui parler la langue maternelle, elle est inatteignable après, et donc ça c'est un atout important pour lui. Mais je pense qu'il a eu, oui, il a eu aussi des inconvénients à être le premier, mais effectivement la langue est plutôt un atout.
Dans un de vos essais, j'ai trouvé des notes. Vous dites que traduire, c'est une forme de vie, une école de vie même. Qu'est-ce qu'on apprend en traduisant ?
Oui, je voulais dire par là que comme c'est un métier d'interprétation, donc il faut qu'on écoute effectivement très bien ce que l'auteur, l'autrice nous dit, ce que le texte nous dit, ce que la langue dit d'ailleurs, au-delà aussi des aspects purement sémantiques. Donc c'est aussi quelque chose qui est important pour moi. Et qui est importante dans l'écriture française d'ailleurs, hein. Vraiment une écriture qui est très mélodieuse, qui est très musicale, et c'est intéressant de transporter ça en allemand. Oui, donc le fait d'écouter et en fait en même temps le fait de devoir s'imposer, c'est-à-dire on n'est pas dans une empathie totale, il faut aussi faire attention à rester droit dans ses bottes et de prendre des décisions tout le temps, parce que quand on traduit, voilà, on peut tout faire absolument différemment. On voit ça quand on compare différentes traductions. Chaque phrase peut être retournée et retournée une dizaine de fois, voire plus. Et donc, il faut à un moment se fixer. Et je pense que c'est intéressant comme exercice. Ouais.
Vous êtes la traductrice de l'écrivain français Éric Houillard. Vous êtes la traductrice de Sylvain Tesson. J'ai aussi lu votre traduction du récit autobiographique « Le Lambeau » de Philippe Lançon, qui est un des survivants de l'attentat au bureau du journal Canard Enchaîné. Et Joachim Schnerf est un des auteurs que vous traduisez, et aussi la rabbinite Delphine Horviller. Puis, il faut mentionner Abigail Essor, qui est jeune et qui est une débutante, aussi que Adèle Rosenfeld. Et puis, les classiques aussi posent un grand défi. Vous traduisez en allemand Honoré de Balzac et Alexandre Dumas. Traduire, ça veut dire aussi se plonger dans des cosmos très différents.
Oui, tout à fait. Et j'aime effectivement le côté très, très divers, même dans une seule journée. J'aime beaucoup, mettons le matin, me plonger au 19e avec Balzac et l'après-midi revenir avec une autrice très jeune dans le monde contemporain. Je trouve que ça maintient en tout cas agile, je pense. Et j'arrive aussi à beaucoup mieux me concentrer quand je n'ai pas trop d'heures devant moi avec un seul texte. J'aime bien ce côté un peu de me discipliner moi-même en sautant d'un projet à l'autre. Bien sûr, vers la fin d'un projet, quand il faut vraiment relire et être totalement dans une tonalité, je prends un seul texte pour finir.
Un grand journal allemand, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, vous a demandé à répondre à un questionnaire et je l'ai lu, donc j'ai appris que vous commencez votre journée en chantant. Une fois que même le plus jeune des enfants est parti à l'école, avez-vous commencé à chanter très tôt ?
Alors le chant, c'est une activité assez récente qui a 10 ans maintenant. Le violon, en fait, j'ai commencé par le violon à 7 ans, comme beaucoup d'Allemandes. J'ai appris le piano, donc j'ai toujours fait beaucoup, beaucoup de musique. J'ai failli le faire de manière professionnelle, mais le chant était une découverte formidable à 40 ans. Donc le chant lyrique est tout à fait complémentaire avec une activité littéraire, parce que bah, justement, c'est une histoire de souffle, souvent aussi dans les textes, on peut dire qu'il y a un souffle qui va de la première à la dernière page, une énergie, mais il y a aussi un souffle d'une phrase à l'autre, à l'intérieur d'une phrase, et d'ailleurs, c'est pas tout à fait les mêmes mélodies de phrases en allemand et en français. Et c'est intéressant d'entraîner son oreille et de peut-être reproduire parfois en allemand la mélodie française de la phrase.
Quel auteur, quelle autrice est-ce que vous êtes en train de traduire actuellement qui sera présenté en Allemagne peut-être l'année prochaine ?
Oui, alors la prochaine sortie, en tout cas, ça sera Adèle Rosenfeld, « Les méduses n'ont pas d'oreilles »,« Quallen haben keine Ohren » en allemand. Très beau livre d'une autrice elle-même malentendante et qui met en scène effectivement une protagoniste qui perd son audition au fur et à mesure du roman. Et oui, donc c'est un livre qui est très imaginatif, qui travaille beaucoup avec la langue, avec le fait de mal entendre certaines choses et ce que ça fait avec nos sens, et qui travaille beaucoup justement avec ce côté mélodieux de la langue que j'ai évoqué avant et qui part un peu de l'aspect purement sémantique.
Mais vous continuez aussi à écrire de la prose vous-même. Est-ce qu'il y aura une suite détente ?
Oui, je travaille à la suite en ce moment pour mettre en scène la vie de mes parents en Colombie dans les années 50 aussi. À nouveau la même époque parce que ma mère a énormément écrit de là-bas à sa propre mère. Et donc ma grand-mère a tout conservé. Donc j'ai des classeurs entiers de lettres, de prospectus, de programmes, de documents de cette époque-là et qui n'attendent que d'être mis en forme. Voilà.
Est-ce que vous pouvez vous imaginer d'aller traduire votre prose en français ou est-ce que c'est trop proche ? Parce que j'imagine que ce n'est pas facile de se traduire soi-même dans une autre langue.
Effectivement, bon, j'aimerais beaucoup que ce livre soit traduit. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oui, je pense à Anne Weber, évidemment, une autrice qui réécrit ses livres dans les deux langues, qui dit elle ne traduit pas, elle réécrit. Et ça, c'est quelque chose que je peux très bien comprendre. Ce ne serait pas un cadeau que je me ferais, je pense, parce que c'est quand même pas facile, parce que ça joue pas mal avec la langue et ça joue avec le dialecte des gens à Stuttgart. Donc, ça serait un défi, clairement. Mais pourquoi pas, dans l'absolu.
On attend. Merci beaucoup de votre visite. C'était le 27e épisode de Litteramour avec Sigurd Brinkmann et Nicolas Denis.